Alors le texte que nous allons lire ce matin est en 1 Samuel 18, c'est la suite, 1 Samuel 18, et nous allons lire les versets 5 à 30, 1 Samuel 18, versets 5 à 30. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Merab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'il arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, « Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. « Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlez ainsi à David, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. » Mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. Et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Alors, dans ce texte, on voit 2 hommes et 2 destinées qui sont en train de se tracer eux-mêmes. En lisant ce passage, on ne peut pas ne pas voir la bénédiction qui pleut sur cet homme-là, sur David, mais c'est incroyable. Les mots qui ressortent, c'est succès, c'est réussite. Et si on n'avait que les chapitres 16, 17 et 18 d'1 Samuel, et qu'on n'avait pas tout le reste de la vie de David, eh bien, on pourrait avoir une idée complètement fausse, une idée qui pensait que finalement, eh bien, celui qui marche avec Dieu, il a plus de souffrance, il a plus d'épreuves, Tout ce qu'il touche devient de l'or, c'est la réussite totale et complète. J'imagine d'ailleurs que certains prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, ben, ça leur va bien ce passage. Hein. Tout ce texte-là, c'est super. Argent, santé, bonheur pour celui qui marche avec l'Éternel. Mais quand on lit la suite de Samuel, on voit que David ne va pas être épargné. Il va vivre aussi des épreuves hein, qui vont le faire souffrir. Et la bénédiction de Dieu, elle n'est pas toujours dans un succès parfait et une réussite totale. Hein, il faut se le dire. Aussi, en lisant ce passage et en l'isolant du reste de la Bible, on pourrait se dire que celui qui est approuvé de Dieu, il n'a que des amis. Tout le monde l'aime. Et on sait bien que ce n'est pas vrai. Hein. La suite de la Bible nous montre qu'au contraire... Hein, celui qui aime Dieu et qui marche avec Dieu, il n'a pas que des amis. Il a aussi des persécutions et des choses difficiles à vivre. Maintenant, ça note pas, tout ça, ça note pas le fait qu'il y a une vraie bénédiction quand on veut servir le Seigneur. Comme il est vrai qu'il y a du malheur, hein, un malheur pour celui qui le rejette et qui ne veut pas marcher dans ses voies, celui qui ne le sert pas. Et c'est ce qu'on va voir donc ce matin. Pour commencer, on voit que cette histoire illustre parfaitement un enseignement de Jésus. Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé ». Vous connaissez ce texte. Et dans cette parole de Jésus, il y a une part active de chaque personne. C'est un choix, c'est une décision que l'on prend. On fait le choix de s'élever ou on fait le choix de plutôt diminuer, de s'abaisser. Et puis, il y a un résultat juste après. Le résultat, c'est un abaissement ou une élévation. Et ça, c'est ce que nous voyons exactement chez Saül et David. D'abord, Saül, en tant que roi, s'est élevé petit à petit en vivant une vie dans l'indépendance de Dieu. Il faisait ce qui lui semblait bon, il ne consultait pas l'Éternel quand il prenait une décision, à chaque fois qu'il devait agir. Pourtant, il avait bien commencé. Si vous regardez le début de la vie de Saül, c'est plutôt bien. Même Samuel dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Et donc, Samuel nous révèle que vraiment, Saül était petit à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression qu'il était petit à ses propres yeux ? C'est certainement avoir une vision de soi-même qui n'est pas trop grande et pas trop élevée. C'est ne pas se prendre trop au sérieux au point qu'on se sent très sûr de soi, plein d'assurance. Saül était quelqu'un maintenant, il était roi, il avait été choisi. Et il semble que ça lui est monté un peu à la tête. Et nous aussi, il faut qu'on fasse attention quand notre statut change, quand il y a quelque chose, un événement qui change dans notre vie, qu'on a une promotion, qu'on a un succès, qu'on a une élévation, qu'on a une réponse à la prière, quelque chose du genre, parce qu'on peut tomber et après commettre erreur sur erreur. Et là, eh bien, on voit pour Saül, ça va être la dégringolade. Et quand on regarde de l'autre côté, on observe David, on voit un cœur qui est petit. Il suffit de regarder toute sa vie, hein. Un cœur qui est petit et un cœur qui va rester petit. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui fait la différence. Chaque fois qu'il y a une élévation, comme une promotion, un succès dans la vie de David, eh ben, il ne se gonfle pas. Au contraire, il reste petit. Ça avance, hein, mais il reste petit. Ça ne lui tourne pas à la tête. Hein. Il va rester dépendant de Dieu pour savoir à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, quelle direction il faut prendre. Et il reste comme ça avec un cœur humble. Et le résultat pour ces deux hommes, eh bien, c'est l'abaissement pour l'un et puis c'est l'élévation pour l'autre. Et dans notre passage, on voit bien la jalousie et l'orgueil de Saül et puis de l'autre côté, on voit l'humilité de David. Alors d'abord pour Saül, ça ressort lorsque ces femmes sont sorties pour chanter. Voilà, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. La réaction ne se fait pas attendre. Hein. Immédiatement, c'est de la jalousie qui sort de son cœur et de l'orgueil. Il se dit, mais en fait, de facto, c'est moi qui dois recevoir la louange, c'est moi qui suis le roi d'Israël. Et puis le vent tourne, il commence à s'irriter de manière virulente, violente, et puis il regarde David comme un rival. C'est un rival à abattre. Et c'est touchant de voir de l'autre côté David, on regarde sa vie, et lui, il ne considère pas Saül comme un rival. C'est très touchant. Loin de là, au contraire, il s'abaisse, il se fait discret. Au départ, au verset 5, on lit que Saül l'établit à la tête des gens de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas beaucoup d'indications dans le texte, mais il semble qu'il soit devenu un peu comme soit l'élite, voilà, le chef de l'élite des gens de guerre, ou bien un peu un général en chef au-dessus de l'armée. Et puis un peu de temps se passe, et finalement on lit au verset 13, Saül l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. Alors c'est comme s'il y a comme une rétrogradation. Saül revient et puis finalement il le place à la tête de 1000 hommes. En tout cas, c'est ce qu'on peut, semble-t-il, on peut comprendre. Et David s'en offusque pas. Il reste tel qu'il était. David sortait, entrait à la tête du peuple. En fait, il continue à assumer ses responsabilités, voilà, comme il le faisait jusqu'à présent. Il reste avec un cœur humble. Ensuite, on voit Saül qui va lui donner la promesse de sa fille Merab, qui certainement était jeune, et donc il fallait qu'elle grandisse un petit peu. Et la première réaction de David, c'est de dire « Mais qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Et David, là, se sent indigne de la famille royale. Il se sent petit, il se sent insignifiant pour être honoré de la sorte et puis accéder comme ça à la famille royale. Et il va soutenir les guerres de l'Éternel, comme Saül le disait, hein, « Soutiens les guerres de l'Éternel et puis je vais te donner ma fille. » Il va le faire fidèlement jusqu'au bout. Mais finalement, eh bien, Saül donne sa fille à un autre. Et là, on regarde David, quelle réaction? Eh bien, il semble même pas amer, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris la chose comme acquise. Il ne s'était pas dit, bon, c'est sûr, voilà, Merab sera pour moi. Non, pas du tout. Et quand on lit la suite, on voit que c'est la réalité. Parce que quand Saül dit, ben maintenant je vais te donner Michal, David aurait pu dire, ouais, c'est ça. Une fois, pas deux, hein, tu m'as déjà eu une fois. Mais pas du tout. Il garde la même attitude. Il dit, mais croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Et son attitude était la même. Donc, il n'a pas changé. Il est vraiment avec cet esprit-là. Alors, bien sûr, il y a cette question de la dot. Il fait état que je suis pauvre. Comment je vais pouvoir faire, quoi? Mais il y a quand même cette humilité qui était réelle dans le cœur de David. Et le résultat, ben, c'est une élévation qui est constante aussi pour lui. L'Éternel ne cessera pas de lui donner du succès dans ses entreprises. Donc on peut dire que l'un est irrémédiablement abaissé, tandis que l'autre est élevé progressivement, petit à petit. La fin du dernier verset de notre passage dit « David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. » Et c'est très touchant encore. Il monte, et puis il ne s'élève pas. Même si son nom devient très célèbre, il reste petit à ses propres yeux. C'est comme s'il en faut beaucoup pour l'arracher à son Dieu. Il veut rester à côté de son Dieu, proche de son Dieu. Personnellement, moi, je dois toujours me surveiller si le Seigneur me dit « Vas-y, monte un peu ici. » Ou tout de suite, il faut que je me surveille. Parce que je sais qu'il y a toujours un risque. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de croire que maintenant c'est bon, je sais, j'ai compris, hein, tout va bien. Je peux faire l'économie de demander à Dieu ou de chercher vraiment avec sincérité la volonté de Dieu. Je peux en faire l'économie, je sais, j'ai compris. Finalement, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Il a commencé à agir selon ses propres pensées, ses propres initiatives, sans consulter l'Éternel. Et là, ça a été la catastrophe. En se reposant sur sa propre sagesse, ben il s'est enfoncé. Alors que David, sa vie montre qu'il avait l'habitude de consulter l'Éternel. Sans cesse, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle direction il faut prendre ?» Et ça, c'est l'exemple qu'il faut qu'on garde pour nous. Hein. Si vous êtes à une croisée des chemins ou vous posez une question, ben, la première chose à faire, c'est se mettre à genoux, dire « Seigneur, quelle est ta volonté là? Qu'est-ce que tu veux? Je veux vraiment savoir ta volonté. » Jésus a dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc la bénédiction, c'est servir Dieu avec un cœur petit, en cherchant la volonté du Seigneur. Ensuite, il y a une autre raison dans notre texte qui nous montre que servir le Seigneur, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est qu'il est toujours préférable d'être entre les mains de Dieu qu'être entre les mains de l'ennemi de Dieu. C'est ce que nous montre le texte. Et ça fait peur, mais c'est une vérité spirituelle. Si on ne veut pas marcher avec le Seigneur, si on ne veut pas se placer sous son autorité, eh bien la menace, c'est qu'on se place sous l'autorité du diable. Hein, parce que forcément, on sort d'une autorité pour se placer sous une autre. Verset 12, il est dit « Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui ». Et ce verset veut tout dire. Tout d'abord, l'Éternel était avec David. C'est repris deux fois dans le texte. C'est répété, verset 14, où il est dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » Et puis, c'est repris encore, verset 18. « Saül vit et comprit que l'Éternel était avec lui. » Donc, il y a une onction, il y a la présence de Dieu qui accompagne David, l'Éternel était avec lui. Et de l'autre côté, Dieu s'était retiré de Saül, dit le texte. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre 16. Si on recule un petit peu, 16, verset 14. On avait vu ce verset ensemble, où il est dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit » venant de l'Éternel. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il n'a pas encore fait l'expiation des péchés, et donc le Saint-Esprit ne peut pas être encore donné d'une manière définitive aux croyants. Tous les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposait sur eux, mais ça voulait dire aussi que le Saint-Esprit pouvait s'éloigner d'eux. C'était une possibilité. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül. L'Esprit était sur lui, mais à cause de sa désobéissance, l'Esprit a commencé à s'éloigner de lui, s'est retiré de lui. Et quand Dieu n'est pas là, il y a un autre esprit qui vient et qui repose sur la personne. Il est écrit « un mauvais esprit venant de l'Éternel ». Ça signifie que Dieu a permis qu'un démon vienne tourmenter certainement Saül. Et il a commencé à être pris de délire, d'hallucinations, d'angoisse, de terreur. Hein. Mais pas que ça. On voit dans notre passage que même le démon va lui dire « Mais tue David, vas-y, prends ta lance et tue-le. » Et il le fait. Il est prêt à le faire. Il se retourne contre lui. Mais par deux fois, il est dit « David se détourna ». Alors qu'en est-il aujourd'hui, maintenant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Il faut savoir que quand on croit au Seigneur, qu'on l'accepte vraiment comme son sauveur, par la foi, la repentance, on est scellé du Saint-Esprit. Puisque Jésus est mort pour nous, il a présenté son sang, alors Dieu a pu envoyer le Saint-Esprit pour venir habiter définitivement dans le cœur des enfants de Dieu. Ce qui signifie que c'est pour toujours. Il ne partira plus de notre cœur, c'est impossible. Donc, vivre une expérience en tout point identique à celle de Saül, ce n'est pas possible. Un croyant de l'Ancien Testament pouvait prier, comme le psalmiste, il a dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Hein, il avait peur, c'est même David un petit peu plus loin, hein, au moment où il a péché avec Bathsheba. « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il était dans la crainte de vivre ce que Saül avait vécu. Mais aujourd'hui, l'Esprit ne partira plus. Il est avec nous d'une manière qui est définitive. La question, c'est est-ce que j'ai l'Esprit? Est-ce que je l'ai vraiment accepté? Est-ce que Jésus m'a sauvé ou pas? Hein, c'est ça. Hein. Néanmoins, une fois qu'on a résolu cette question, qu'on a vraiment donné son cœur à Jésus-Christ, il est toujours possible de tomber dans le péché et de devenir infidèle et de s'éloigner du Seigneur. Et malheureusement, c'est aussi possible de le faire de manière répétée, de s'endurcir. On a vu des chrétiens prendre ce chemin-là. Le Saint-Esprit ne partira pas. Il restera là. Mais on peut finalement sortir de la grâce, de la bénédiction et de la protection de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour cet homme qui a commis un inceste, donc dans 1 Corinthiens 5, où là, l'apôtre Paul a dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, il va être sous l'emprise du diable, quoique enfant de Dieu, mais son esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu. Il vaut mieux être entre les mains de Dieu et y rester plutôt que de s'éloigner suffisamment loin pour se retrouver entre les mains du diable. Et autant on voit Saül dégringoler dans son endurcissement et son aveuglement et sa folie, autant de l'autre côté, on voit David qui est loin, qui a la puissance, qui a la grâce et la faveur de son Dieu. Et quelle différence on voit entre Saül qui est tourmenté par le démon et David qui est poussé et porté par le Saint-Esprit. Enfin, pour terminer, la vie de ces deux hommes permet de comprendre à quel point nous avons vraiment besoin de Dieu. Parce que le choix de servir Christ fidèlement pour David contraste vraiment avec la voie que Saül a commencé à se tracer. C'est effrayant de voir comment un homme peut se livrer au péché et descendre de plus en plus bas, de plus en plus bas. Saül nous montre que quand on est sans Dieu, on est voué au péché, voué à l'iniquité. Si Dieu nous abandonne, on n'imagine pas de quoi nous sommes capables. On n'imagine pas la puissance du péché qui peut nous entraîner très très loin. J'aime bien cette citation qui dit « Aucun de nous n'est assez mauvais qu'il pourrait être et aucun de nous n'est assez bon qu'il devrait être. » Et cette première partie, « Aucun de nous n'est assez mauvais qu'il pourrait être. » Ça signifie qu'il y a en nous une aptitude, une capacité gigantesque de faire le mal. Et c'est quelque chose qui est là, qui est naturel, qui demande qu'à s'exprimer. Et malheureusement, s'il y a des circonstances qui font que, qui le permettent, ce mal commence à déborder et il coule à flot. Saül, au départ, était une bonne personne. On l'a lu. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui était petit à ses propres yeux. Mais c'est les circonstances qui vont révéler quelque chose dans son cœur qui était insoupçonné. Si on prend toute sa vie, on voit sa dégringolade. On voit une indépendance de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Et puis on voit de la désobéissance mêlée à de l'incrédulité. On voit du mensonge, il commence à mentir ouvertement. Il tombe dans la lâcheté. Il ne craint plus l'Éternel, mais il craint les hommes. La crainte des hommes commence à vraiment grossir dans son cœur. Et puis ensuite, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, on vient de le voir dans le texte, c'est le meurtre, c'est la haine, c'est après un esprit qui est machiavélique, fourbe, trompeur, pour essayer de piéger David. Et finalement, c'est une inimitié qui est croissante donc à l'égard de David qui lui voulait du bien. Et c'est effrayant de voir de quoi le cœur humain est capable, de quoi nous sommes capables. La Bible dit « le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux ». Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Ça veut dire, mais quel homme peut le connaître? Nous ne connaissons pas nos propres cœurs. On ne sait pas de quoi on est capable si on se retrouve dans une circonstance qui révèle ce que nous sommes. Mais Dieu dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et donc, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre propre cœur. Nous sommes notre propre ennemi. On peut être un piège pour nous-mêmes selon la voie dans laquelle nous nous engageons. Et si Dieu n'est pas là pour nous garder, pour nous retenir du péché, pour nous protéger de notre faiblesse, alors, on peut avancer, se reposer sur sa sagesse et puis qu'est-ce qui va arriver? Si Dieu ne nous retient pas, qui va nous retenir? La personne. Dieu a livré Saül à son propre cœur. Et puis ensuite, c'est un enchaînement de péchés et Saül ne voit plus clair. Il est complètement aveugle. Il n'y a qu'un moment, encore la bonté, hein, la bonté de Dieu au travers de David, qui épargne Saül à chaque fois, où là, Saül va, comme s'il y a un jet de lumière là. C'est la bonté qui le brise et qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Et puis après, hop, il ressombre dans ses ténèbres. Alors qu'au contraire, de l'autre côté, David, lui, est revêtu de l'Éternel et il est protégé de lui-même parce que ben, le cœur de David est comme le cœur de Saül. Hein, le péché est dans le cœur quand même. C'était un pécheur comme lui, mais un pécheur qui veut rester sous la grâce de Dieu et dans la fidélité à son Dieu. Un pécheur qui va craindre l'Éternel. Et le résultat, c'est que David fait ce que Dieu lui demande. Alors il est écrit, David allait, réussissait partout où Saül l'envoyait. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et petit à petit, les serviteurs de Saül commencent à se désaffectionner de leur roi et à s'attacher donc à David. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peuple commence à l'aimer? Il est dit parce que David sortait et entrait à la tête du peuple. Et c'est dit plusieurs fois, notamment en verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Et en fait, Saül ne combattait plus. Dans son angoisse, hein, dans son attitude, il s'était isolé. Il n'était plus au milieu du peuple. Alors que David, lui, était encore au milieu du peuple. Et il allait, et puis il entrait, il sortait. Et Saül, lui, est reclus. Et ça commence à scinder, hein, commence à faire un problème, hein, en tout cas un problème pour Saül. Ça ne veut pas dire que David ne va pas tomber. Hein. Un petit peu plus loin, on voit que c'est David qui devait être au front avec ses soldats, mais qui va rester au palais, hein, à se balader sur la terrasse. Et puis ça va être sa chute. Mais on n'en est pas encore là. Et pour l'instant, David fait exactement ce qu'il faut. Et voilà, il reste dans la proximité de son Dieu et puis, ben, petit à petit, il s'attire la faveur. Que ce soit dans ses actions ou ses réactions, David est inspiré, si on peut dire. Il est loin et du coup, toute sa vie en est un reflet. C'est aussi pour ça qu'il va réagir avec un cœur petit lorsque le roi veut lui offrir sa fille. C'est pour ça qu'il va se détourner deux fois de Saül et il ne va même pas développer une animosité dans son cœur à l'égard de Saül. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il accepte aussi de faire ce qu'on lui demande, même si c'est difficile, même si c'est un peu fou, hein, aller tuer 200 Philistins pour prendre les prépuces. Je vous laisse y penser, hein, c'est fou. Mais l'Éternel lui donne du succès dans ses entreprises. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que David ne va pas être éprouvé. Au contraire, il va passer dans un broyeur. Hein. C'est la suite de l'histoire où vraiment David est très, très éprouvé. Mais au sein de l'épreuve, Dieu est avec lui, Dieu l'accompagne et il reste fidèle. Alors, eh bien, il est gardé, il est protégé aussi dans ses décisions. Et même si des fois, hop, il y a une petite glissade, hein, ça arrive. Ça arrive, mais d'une manière générale, on voit vraiment qu'il y a cette protection. Et ça nous montre qu'on a vraiment besoin de Dieu. Il est notre garde-fou à notre folie. Il est notre seul garde-fou. Si on ne reste pas sous son ombre, sous ses ailes, hein, comme dit le cantique, là, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, eh bien, on est en danger. On se met tout de suite en danger. Un mauvais choix en entraîne un autre, et puis un autre, et puis encore un autre. Par exemple, comment se retrouve-t-on jugé devant un tribunal un jour? C'est rarement parce que quelqu'un tombe sans crier gare d'un seul coup. Souvent, c'est des circonstances, hein, qui font que c'est petit à petit, c'est un processus qui s'établit. Ce sont des pensées d'abord qui commencent... être gardé, conservé. Les pensées engendrent des actions. Les actions répétées engendrent des habitudes. Et puis, les habitudes amènent finalement un jugement parce qu'on joue avec le feu. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. On peut entretenir des pensées mauvaises, on les fait tourner, on garde de l'amertume qui n'est pas confessée, qui n'est pas réglée, ou bien on accumule une liste de griefs à l'égard de quelqu'un, on s'autorise un peu de désobéissance de temps en temps, mais de manière répétée, ou bien on ouvre la porte à des idées qui viennent pas de Dieu, et puis ben, les pensées engendrent des actions, et les actions engendrent des habitudes, et puis on tombe. On ne sait pas où notre cœur peut nous conduire si on ne reste pas dans l'obéissance, dans la dépendance, dans la proximité avec Dieu. On a besoin qu'il nous couvre, qu'il nous oigne, qu'il nous garde dans sa présence. Et malheureusement, c'est facile de se fourvoyer, de se mentir à soi-même et de croire qu'on fait la chose par Dieu et pour Dieu. C'est possible. C'est possible. On a le sentiment, on se dit, moi je sers l'Éternel. Je suis vraiment dans le bon, dans le juste, dans le vrai. Et finalement, le résultat montre, non, ce n'était pas ça. Je me suis trompé. Et donc, ça invite à être vraiment prudent, sage, humble, dépendant du Seigneur. David consultait l'Éternel. Consultons l'Éternel. Et je terminerai avec ce verset, ces deux versets du psaume 139. Psaume 139. Versets 23 et 24. 139, versets 23 et 24. Où David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est une belle prière qui est faite par lui et qui montre encore une fois son habitude. C'était son habitude. Il disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est à toi, Seigneur, de venir sonder mon cœur. Ce n'est pas à nous d'aller sonder notre propre cœur. Parce que si nous, on va se sonder soi-même, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai sûrement péché quelque part? Je dois avoir péché. On va trouver du péché. Ça, c'est sûr. Hein. Le diable aussi va se jouer de nous. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai pris une mauvaise décision? J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Sonde-moi, ô Dieu. Vas-y, connais mes pensées. Montre-moi si mon raisonnement n'est pas juste, si je me trompe quelque part. Et pour ça, pour être sondé par le Seigneur, ben c'est impératif de se réserver du temps avec Dieu. Il faut garder du temps avec le Seigneur. Lui laisser le temps de nous sonder. Si on ne prend pas le temps, si notre prière, c'est oups, vite fait comme ça, c'est sûr, on va se tromper parce qu'on n'aura pas le temps. Hein. Dieu ne pourra pas nous arrêter. Et puis, finalement, on ne lui demande pas quelle est sa volonté. Passer du temps avec le Seigneur et puis être honnête avec soi-même et honnête avec lui. Celui qui est trop sûr de soi, il n'a pas besoin d'être sondé ou que ses pensées soient éprouvées. Il sait. Je sais, donc je n'ai pas besoin qu'on vienne me sonder ou que le Seigneur me sonde. Mais le cœur qui est humble, il va demander à Dieu. Il va dire, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. D'une manière honnête, Seigneur, je ne veux pas me tromper. C'est ça, hein ? Il ne suffit pas de le dire, ça va Seigneur, et puis hop, je continue. Non, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas me tromper, garde-moi. Je veux vraiment faire ta volonté. Et quand on reste comme ça, dépendant, vraiment avec un désir d'être fidèle, ben Dieu nous garde et on prend les bonnes décisions. Et après, on le sait. On a de l'assurance. On le fait avec la paix qui vient de Dieu. Et donc, s'il y a un piège, le premier piège, c'est dans notre propre cœur. Faire attention à soi-même. Alors, eh bien, qu'on puisse retenir ce matin que la bénédiction, elle est vraiment dans un service fidèle, comme nous le montre ce passage. Et plus on va descendre, plus eh bien, Dieu permettra qu'on s'élève. Pas qu'on veut être élevé ou qu'on descende parce qu'on veut être élevé, mais c'est une réalité qui s'opère dans la vie du chrétien. Et c'est aussi parce que plus on descend, plus on laisse Christ Et plus on laisse Christ, eh bien moins on prend à Christ. Alors eh bien Christ peut se manifester. Il est libre parce qu'il a les coudées franches et la gloire, elle est pour lui, elle n'est pas pour nous-mêmes. Et puis enfin, aussi, hein, le servir et rester fidèle, c'est se protéger du malin. Et c'est s'assurer sa présence, sa grâce. Et finalement, c'est se protéger de son propre cœur. Que Dieu puisse être notre guide. Que le Seigneur vous bénisse.